C'est le moment d'aller rejoindre Pierrot en direct de Raleigh.
On a l'impression qu'on est en Guadeloupe, en Martinique. Écoute, c'est incroyable. Le mercure, au moment où je vous parle, est à 36 degrés Celsius.
Aïe aïe.
Et l'humidité est à au-delà de 50 %. C'est vraiment une canicule. Peut-être, selon mes collègues de la Caroline, peut-être même une journée record. Là, on va attendre les nouvelles. Mais c'est absolument incroyable, messieurs. Je n'ai jamais vécu un environnement comme ça pour un match d'ouverture en 30. C'est mon 31e. Je ne crois pas avoir jamais vécu ça dans ma vie.
Parlons de la prochaine saison, Pierre. La majorité des experts estiment que le Canadien ne fera pas les séries. Ma question est la suivante. Quels acquis le Canadien devra-t-il conserver, les acquis de l'année passée? Et sur quoi devront-ils travailler pour espérer faire les séries? Moi, évidemment, j'en identifie deux facilement. Donc, la performance du gardien de but numéro 2 et évidemment, l'avantage numérique.
Ben, l'avantage numérique, c'est clair. Si tu veux, on y reviendra, Richard. Mais toi, tu parles du gardien numéro 2. Mais c'est parce que le gardien numéro 2, moi, m'amène à parler du facteur principal dont on a très peu parlé pendant le camp d'entraînement, parce que c'est pas vers lui que les réflecteurs étaient tournés. C'est pas lui qui a fait jaser le plus, mais je veux parler de Carey Price. Et tu sais, on parle de ta question de base, c'était le Canadien, peux-tu l'espérer participer aux séries?
Mm-hmm.
Mais participer aux séries, ça veut dire que tu dois regarder ton club en valeur absolue et tu dois regarder les rivaux aussi contre qui tu te bats pour une place en série. Et c'est là où l'avantage du Canadien, et c'est un acquis depuis qu'il est avec l'équipe et il le sera encore à long terme, c'est là où tu dois forcément placer ton gardien élite, ton gardien numéro un, l'un des meilleurs encore du hockey professionnel, tu dois le placer au sommet de l'équation. Maintenant, j'aime bien ta porte que tu as ouverte avec le gardien numéro 2, parce que justement, l'an passé, quand nous étions ici, rappelle-toi, les Hurricanes de la Caroline en fin de saison avaient donné un dur coup aux Canadiens en les battant 2-1 ici par le but de Svechnikov, et on avait vu un Carey Price qui était carrément à bout de souffle en fin de saison. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que Keith Kincaid permette à Carey Price ou permette au personnel d'entraîneur de doser correctement le travail de Carey Price et s'assurer qu'il sera frais et dispo dans une éventuelle course aux séries éliminatoires quand arrive au mois de mars et au début du mois d'avril prochain. Quant au jeu de puissance, écoute, on a vu à l'entraînement des approches différentes. On utilise beaucoup le 1-3-1 avec une première vague au sein de laquelle on retrouve Philippe Danault. Ce qu'on souhaite, c'est que Philippe Danault gagne les mises en jeu. Comme vous le savez, messieurs, il y a une nouvelle règle cette année. L'équipe qui bénéficie d'un jeu de puissance peut choisir le côté de ses mises en jeu à la relance. Ça, c'est très important. On ne peut pas espérer de grandes choses si on n'a pas un rendement au moins autour de 18-19% en supériorité.
Pierre, j'entendais les commentaires des différents joueurs qui disaient que c'était le temps que ça commence, que ce soir, on est content que ce soit le premier match de la saison. D'ailleurs, sur nos ondes, Antoine Roussel est un nouveau chroniqueur, dit qu'il lui parle à toutes les semaines, et même lui mentionnait pourquoi pas raccourcir le camp d'entraînement et commencer le calendrier beaucoup plus tôt. Ta vision de la chose de ton côté, c'est quoi là-dessus, Pierre?
Ah, moi, je suis très ambivalent. Je vais t'avouer que vous savez comment je suis un fan de football dans la NFL. Et j'entends les équipes se plaindre que le jeu n'est pas bon au début. J'entends les équipes dire qu'il y a des le réglage. Les réglages ne sont pas peaufinés, comme on dit en F1, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on dit dans la NFL, c'est que les matchs préparatoires ont un sens, en autant que tu fasses jouer quand même à un certain rythme tes joueurs réguliers pour créer de la chimie, pour créer une unité, pour créer pour répéter les éléments de base du plan de match. Maintenant, est-ce que 7 ou 8 matchs préparatoires, c'est trop? Peut-être. J'écoutais Claude Julien, j'écoutais Jeff Molson. Ce qu'on semble discuter à travers la Ligue nationale, c'est que peut-être que 6 matchs préparatoires, ce serait suffisant. Tu pourras en avoir 3 pour vraiment évaluer tes jeunes joueurs et tu pourras en avoir 3 autres pour mieux évaluer ton équipe ou du moins ramener ton équipe à celle qui ressemble au calendrier régulier. Mais il y a une chose qui est indéniable. c'est que les matchs préparatoires aident les entraîneurs et les directeurs généraux à prendre des décisions. Il y a des joueurs qui forcent la main, dans certains cas, dans un sens, et des joueurs qui forcent la main dans l'autre sens, où on n'a pas le choix que de les couper ou de les retourner dans la Ligue américaine.
Pierre, présentons les nouveaux visages du Canadien. Cale Fleury, Nick Suzuki, Nick Cousin, peut-être nous dresser un portrait, là, un court portrait de ces nouveaux visages-là et en quoi ils pourraient contribuer à la relance du Canadien.
Ben, dans le cas de Nick Suzuki, c'est assez clair. On parle d'un attaquant. Justement, je parlais de ceux qui forcent la main. Voilà, ça répond en partie à ta question, PA, d'ailleurs. Parce que si Nick Suzuki n'a pas autant d'occasions de montrer qu'il peut jouer au centre ou à l'aile droite au sein de trios importants en attaque, ben si les matchs préparatoires ne sont pas en nombre suffisant, peut-être qu'on ne voit pas tout le répertoire de son talent. Peut-être qu'on ne voit pas un joueur capable de prouver qu'il a sa place et qu'il donne une option de plus à l'entraîneur, ce qu'on verra ce soir. Donc Suzuki va amener à l'aile droite, à court terme du moins, puis on verra si ça va durer, on l'espère, chez le Canadien. Mais il va apporter, dans le fond, une grosse pièce à un casse-tête qui existait. Parce qu'à part Brendan Gallagher, on se demandait qui pouvait-il jouer sur un deuxième trio au sein du personnel et de la formation régulière à l'attaque. Ben, on semble dire et on semble croire que Suzuki est une excellente solution. C'est ce qu'il a montré au camp d'entraînement. C'est aussi un joueur qui est naturel au centre. Alors, si jamais on avait besoin de faire sauter un match de temps en temps à Kotkaniemi s'il ne le développe pas, ben ça demeure une option intéressante pour l'équipe. Ou autant Jordan Wheel, en quelque sorte. Dans le cas de Cale Fleury, on parle d'un défenseur de 20 ans, Richard, et PA, c'est incroyable, là, qui a été supérieur à deux vétérans qui sont avec l'équipe et qui vont faire du temps supplémentaire la plupart du temps lors des entraînements du matin. On parle d'un jeune homme de 20 ans qui a été simplement supérieur aux deux autres. Et je pense à Mike Riley et je pense à Christian Folin. On a donné un essai notamment à Riley, le gaucher, du côté droit à Toronto en match préparatoire. Ça avait été catastrophique, rappelez-vous. Ça avait été catastrophique en duo avec Folin. Donc Fleury a mérité sa place. Et quelle histoire ce soir de réaliser que son frère Hayden va être un des six défenseurs du côté des Hurricanes de la Caroline. On aime ce genre de petites histoires en parallèle. On en a une très belle ce soir ici à Raleigh.
Pierre, est-ce qu'on va être patient avec le dossier de Kotkaniemi? On sait que son camp d'entraînement a été difficile. Marc Bergevin l'a répété en conférence de presse qu'à 19 ans, il faut être patient avec lui. D'ailleurs, on va retrouver à sa gauche un Jonathan Drouin qui lui aussi doit se prouver en ce début de saison-là. Pourrait peut-être lui nuire, je ne le sais pas. Mais à quel point on sera patient avec Kotkaniemi en début de saison?
Ben, en fait, il y a deux volets à ta question. Est-ce qu'on va être patient avec Kotkaniemi? Oui, on va être patient, PA. Parce qu'écoute, on parle quand même d'un joueur de 19 ans. On parle d'un joueur qui a passé toute une saison d'apprentissage en 2018-2019. On parle d'un joueur dont la masse musculaire est en pleine croissance. On parle d'un joueur qui a moins l'innocence de sa première année, comprend un peu plus l'environnement dans lequel il s'embarque. On parle d'un joueur qui commence à réaliser la pression qu'il y a sur les futures étoiles dans la Ligue nationale de hockey. Il faut lui laisser le temps d'assimiler ça, et c'est ce qu'on veut faire indéniablement avec le Canadien cette saison. Et j'aime beaucoup son attitude. Il a rencontré les collègues avant de partir pour la Caroline. Il a dit, écoutez, je suis très conscient que j'ai pas été à mon mieux à ce camp d'entraînement-là, mais je me suis fixé des objectifs personnels. Et ce qu'il aimerait faire en particulier, c'est enfin marquer à l'étranger. Écoute, s'il pouvait marquer ce soir, là, PA, ne serait-ce qu'une déviation par la fesse, ce serait extraordinaire pour lui. Ça lui enlèverait un éléphant sur les épaules. Oui. À propos de Jonathan Drouin, c'est que il y a toujours deux façons de voir les choses. Tu dis, ben, Drouin, pas un très bon camp. Est-ce qu'il peut nuire au développement du jeune? Kotkaniemi, j'ai bien aimé sa réponse. Lui, il a dit le contraire. Ça va peut-être m'aider de jouer avec un joueur aussi talentueux que Jonathan Drouin. Et Drouin est tout à fait conscient des opinions qu'il a attirées pendant le camp d'entraînement. Il est tout à fait conscient qu'il doit en faire plus pour l'équipe. Son directeur général lui a dit. Il reste que à l'étranger, ce sont des joueurs qui vont être utilisés avec un dosage différent qu'à domicile. Et ce sont des joueurs qui auront peut-être un peu moins de temps de glace, mais qui auront peut-être aussi des responsabilités allégées pour leur permettre de débloquer en attaque un trio qui va être complété par Yoel Armia.
En terminant, Pierre, les hostilités se sont amorcées hier dans la Ligue nationale de hockey. Si on regarde à long terme, je vais pas te demander quelle équipe va remporter la Coupe Stanley, mais je veux savoir quelle équipe pourrait surprendre comme l'ont fait les Blues. Donc, comme on dit, ton long shot, une surprise encore. Est-ce qu'il pourrait y avoir encore une surprise en finale de la Coupe Stanley cette année?
Oh, en finale de la Coupe Stanley, je suis pas sûr parce que moi, je persiste et signe que le Lightning a la meilleure équipe dans l'Est. Encore faut-il le concrétiser. Fait que si jamais le Lightning se rend en finale, peut-être c'est ça la surprise, Richard. Si le
Lightning, oui.
Si le Lightning se rend en finale. Mais écoute, moi, je pense que je maintiens que le Lightning de Tampa Bay est la meilleure équipe à tous les points de vue. Ceci dit, je placerai pas. Moi, l'équipe qui pourrait vraiment surprendre, sans nécessairement se rendre jusqu'en finale de Coupe Stanley, une équipe qui en a grandement besoin, ce sont les Panthers de la Floride, avec Bobrovsky devant le filet, avec Joel Quenneville qui s'ajoute à l'équipe, avec un vétéran comme Strahlman en défense. Je pense que cette équipe-là a maintenant les ressources pour sortir de la. Cette espèce de je dirais pas une torpeur, mais cette ambiguïté incroyable à chaque année que l'on voit avec les Panthers, de les voir commencer trop tard, de les voir tenter de relier les séries à partir de la deuxième moitié de la saison. Alors pour moi, c'est peut-être l'équipe que je vais surveiller avec beaucoup d'intérêt du coin de l'œil, les Panthers de la Floride et le développement. Et je vais aussi surveiller du coin de l'œil la nouvelle approche avec les Oilers d'Edmonton. Je sais que ça a été une victoire très serrée hier pour les Oilers, 3-2. Je regardais encore le but de Connor McDavid, le but gagnant. Je regardais aussi la soirée de Draisaitl. C'est une équipe qui, pour moi, que je vais regarder de très près pour voir si elle peut s'approcher enfin des séries éliminatoires.
Alors, Pierre, bon match d'ouverture ce soir à Raleigh, en Caroline.
Et je parlais à mes collègues des Hurricanes pour conclure. La présence en série, le renouveau de l'équipe a généré beaucoup de positifs hein, pour l'équipe. On me disait l'année passée qu'on avait généré à peine 500 000 $ de revenus supplémentaires. On dit que là, en termes de billets de saison, billets à la journée, commandites et ainsi de suite, on a généré un impact probablement autour de 5 millions de $ supplémentaires pour les Hurricanes. Alors, ça devrait être vraiment un très beau buzz, une très belle ambiance ce soir pour nous qui sommes ici et pour vous qui allez nous regarder à RDS.
Ce ne sera donc pas demain la veille qu'ils déménageront à Québec.
Ben écoute, à Québec, non, semble-t-il que non, mais ceci dit, on ne sait jamais dans le hockey moderne. Faut jamais dire jamais, en quelque sorte.
Bon début de saison, Pierre, et on aura probablement quelques réponses à nos questions dès 19h ce soir.
Oui, c'est un grand défi qui attend le Canadien pour commencer. Trois matchs à l'étranger, et coup sur coup, les Hurricanes et les Maple Leafs en deux jours ou en trois jours. Alors, un beau défi qui devrait donner quelques réponses, en effet.
Et tu sais qu'en début de saison, on te demande toujours si Marc est près de toi. Est-ce que Marc est à côté de toi?
Non, Marc est en mission présentement. Alors, il a sa mission, et moi, j'avais la mienne de vous parler. Mais je suis convaincu qu'il vous envoie à vous et évidemment à tous vos auditeurs ses salutations les plus respectueuses.
Voilà, tu lui souhaites une bonne saison de notre part.
Je vais le faire avec plaisir.
Merci Pierre, à la semaine prochaine.
Salut messieurs.
Bye bye.